Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous écoutez Radio Grenouille et ça vient pas de nulle part. Aujourd'hui, une petite histoire de la prison des Baumettes. Vous écoutez Radio Grenouille et c'est Claire Rivière au micro. Aujourd'hui, c'est la première d'une nouvelle émission qui s'appelle « Ça vient pas de nulle part ». Un rendez-vous mensuel où nous partons en reportage en dehors du studio pour écouter le bouillonnement de la société avant d'essayer de comprendre le pourquoi de ce bouillonnement par le prisme de l'histoire. Pour ça, nous donnons la parole à un fin connaisseur du sujet abordé dans le reportage. Parce que le présent a souvent des raisons passées, parce que pour comprendre aujourd'hui, il est utile de connaître hier, parce que tout ce qui se passe sur cette terre et dans cette ville de Marseille aujourd'hui, ça vient pas de nulle part. Ça vient pas de nulle part.
Je crois que la vie de la prison, c'est facile. En prison aussi, il y a le racisme. Je peux pas faire confiance à personne. Je suis en prison, je fais mon sport, j'attends que la justice, qu'est-ce qu'elle va faire de moi. Mais ça fait 4 ans ici, j'ai rien fait 4 ans. De plus en plus, je deviens quelqu'un qui apprécie moins la vie. Qui...
aigri.
Voilà.
Qui
perd les mots. Qui perd beaucoup de choses. Il perd même la valeur de l'éducation que lui a donnée. Je ne sais pas, moi, comment vous dire ça.
Vous voulez dire qu'ici, en prison, vous êtes obligé, au fur et à mesure, d'avoir une attitude de prisonnier.
De prisonnier. Et ça, je me bats pour ça, pour ne pas l'avoir, cette attitude-là. Je veux, quand je sors, je veux reprendre la vie normalement.
La voix que vous venez d'entendre, vous l'aviez compris, c'est celle d'un prisonnier. Des paroles enregistrées à l'intérieur de la geôle à la fin des années 80 par le documentariste Renaud Victor, qui signait là son film « De jour comme de nuit ». Le détenu qu'on a entendu se trouvait alors à la prison des Baumettes, le centre pénitentiaire de Marseille. Son ancien directeur, Thierry Alves, a dit un jour « Les Baumettes, c'est comme une institution ici, comme l'OM, la Bonne Mère ou le Vieux-Port ». C'est cette institution dont nous allons aujourd'hui tenter d'établir une histoire. Et je dis bien une histoire et pas l'histoire, car toute vérité n'est que parcellaire. Les faits et l'histoire, nous les évoquerons avec nos sensibilités propres, en l'occurrence la mienne et celle de mon invité Bruno des Baumettes, qui se trouve à mes côtés dans ce studio. Bruno a une cinquantaine d'années. En 2012, il a été incarcéré aux Baumettes pendant 3 mois et 19 jours. Un passage inédit derrière les barreaux qui l'a poussé à écrire, à raconter cette expérience. À sa sortie, Bruno a ouvert un blog. Il y a publié ses chroniques carcérales, puis, petit à petit, il a étoffé le contenu de son site internet. Il a recherché des informations de toutes sortes sur cette prison, sur la prison. Il a fouillé les archives départementales pour reconstituer l'histoire de ce pénitencier des Baumettes, un sujet sur lequel il n'existe, à ma connaissance, aucun ouvrage. Le site de Bruno fait donc référence en la matière. Il est accessible à l'adresse brunodesbaumettes.overblog.com et nous en reparlerons tout à l'heure. Mais pour l'instant, je vous propose de partir aux portes de la prison des Baumettes pour écouter les paroles de ces femmes qui patientent chaque semaine devant le mur d'enceinte à l'extérieur. Elles sont les mères, les sœurs ou les compagnes des détenus. Et le 29 octobre dernier, elles avaient rendez-vous au parloir.
Il est 9h-3.
Le 7-9.
En face de la prison des Baumettes, il y a de jolies maisons avec des palmiers. Mais quand on tourne la tête, on voit un mur. On voit des voitures et on croise des surveillants en uniforme. Et puis... près de la porte, un attroupement de femmes, celles qui viennent rendre visite à leurs proches détenus, celles à qui l'on demande comment ça se passe au parloir.
Ben comment ça se passe? On va pas dire que ça se passe très mal, c'est pas ça. C'est que des fois, on a l'impression, on se sent un peu méprisé en tant que famille de prisonniers. Quand on vient, qu'on veut ramener, rentrer les affaires pour la première fois, on vous dit de venir à 14h et de venir une demi-heure à l'avance. Ils sont là, ils vous regardent et vous font rentrer peut-être 2h après, 2h30 après. Là, aujourd'hui, j'arrive. La semaine dernière, il y a 3 quarts d'heure de retard pour le parloir. Aujourd'hui, ils font rentrer en avance. J'arrive et ben, on ne me fait pas rentrer. Voilà. Aujourd'hui, c'est en avance. Ben, il fallait être là une demi-heure à l'avance peut-être. Après ça, je ne dis pas que c'est de la faute des surveillants, mais il n'y a qu'à voir l'état des lieux. on sait, enfin, j'imagine même pas ce que ça peut être dedans pour eux dans les cellules, parce qu'apparemment, c'est, enfin, de ce qu'ils nous racontent, c'est une horreur. Mais même nous, dans le parloir, honnêtement, on a l'impression d'être des chiens. C'est, ah oui, faut arrêter de croire que c'est le parloir de Plus belle la vie. Hein. C'est, ça n'a rien à voir, là. C'est des cages, c'est des cages. C'est horrible, c'est dégueulasse, c'est sale. C'est ben voilà, rien que ça. On vous traite comme un déchet, voilà. C'est dedans, c'est ça. C'est la déchetterie.
Et le parloir, c'est dur combien de temps, du coup ?
La durée du parloir, c'est 30 minutes.
Qu'est-ce qu'on a le temps de se dire en une demi-heure dans un parloir ?
Qu'est-ce qu'on a le temps de se dire ? Ben, on se raconte un peu, ben, on demande comment, enfin, eux demandent déjà comment vont les proches, on leur raconte un peu ce qui se passe à l'extérieur, comment ça va, on essaie de se soutenir moralement. Voilà. Voilà, pendant, bon, après, ça passe vite, hein. Ça passe rapide.
Je peux demander ce que vous en pensez, hein ? Je travaille pour Radio Grenouille.
C'est pareil que la dame. Hein.
Ouais. Mais c'est-à-dire. Ouais.
Ben, on est traité. On dirait que c'est nous les criminels qu'on rentre aussi. C'est une horreur.
Mais c'est-à-dire, c'est quoi ? C'est des mots,
c'est
des.
C'est pas les mots, c'est le comportement, comment ils nous regardent, comment ils nous traitent. Des fois, on dit bonjour, même pas s'ils nous répondent. Donc, c'est vraiment. Après, c'est la fouille.
À chaque fois ?
Ah oui. On passe sous un portique, là, des fois il est mal réglé, on sonne pour n'importe quoi.
Et pour prendre les rendez-vous, ça se passe comment ?
Franchement, c'est un truc de fou. Parce qu'il y a les cartes, pour ceux qui ont les cartes, ils prennent, ils viennent. Là, maintenant, ils ont mis des box là, pour prendre les rendez-vous dehors, là, à l'association. Mais sinon, c'est par téléphone, et par téléphone, c'est une alu. J'appelle, avant de pouvoir les avoir, j'appelle 300 ou 400 fois, des fois. Parce que maintenant, avec les portables, c'est bien, c'est que c'est qu'on a le nombre d'appels qu'on a fait. Et je vous promets, je ne sais pas si je l'ai lui dit. Non, j'ai effacé. Hier, j'ai appelé 305 fois avant de les avoir. Ah, c'est un truc de fou. C'est un grand truc de malade. Ouais, ouais. Quand on travaille, il faut prévoir une demi-journée, voire plus même. Parce que le temps qu'on passe le trajet et tout, c'est la misère.
Ouais, j'imagine, bon... Si on vient de Marseille, ça va, mais c'est vrai que les gens qui viennent de loin, ça doit pas être...
J'ai presque 2 heures de trajet, je suis en bus. J'ai presque 2 heures de trajet. Alors, je savais que j'ai une journée, entre guillemets, off. Une journée pas perdue, parce que je viens boire, mais j'ai une journée off.
Hein? Parce qu'il faut 2 heures pour venir, 2 heures pour retourner.
Ah ouais. Ah ouais, parce que j'habite pas là. Ah ouais. Transport en commun, voilà, Marseille.
Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il ou elle vous raconte de l'intérieur ?
Ben, qu'il manque du personnel, ils ont le temps de rien faire. Par exemple, pour prendre la douche, il faut qu'ils demandent 100 fois. Pour qu'on vienne le chercher, pour aller à une activité, il faut qu'ils demandent 100 fois. Son courrier, il a des fois, il n'a pas le jour même, il a 3-4 jours après.
Et ça fait longtemps que vous connaissez cet endroit ?
Ça va faire 2 ans.
Vous vous souvenez la première fois que vous êtes venu ?
Calvaire. Ah ouais, parce que c'est bizarre. On a beau nous dire comment ça va se passer dedans et tout, mais c'est dur, quoi. Mais surtout le regard, comme ils nous regardent, c'est impressionnant. On dirait que c'est moi qui...
Les gardiens.
Ouais, on dirait que c'est moi qui suis là, que je vais rentrer, que je vais plus sortir. Parce qu'on est cloisonnés, on rentre dans une pièce, c'est fermé. Après, ils demandent, il faut qu'ils nous ouvrent pour rentrer dans une autre pièce, c'est refermé. Après, c'est pareil, il faut passer, il faut rentrer dans les box qui nous ferment. Et des fois, ils nous les empêchent. Ils nous viennent les chercher avant, les prisonniers. Et des fois, ils nous laissent. Une fois, ils m'ont laissé 10 minutes enfermée. Oh, j'ai dit, vous imaginez pas ce que ça fait 10 minutes toute seule dans ce petit box enfermé. Quand ils m'ont ouvert, j'étais soulagée. Il m'a dit, qu'est-ce que vous arrivez ? Ça fait plus de 10 minutes que vous l'avez pris. Mais moi, je suis enfermée, là. C'est vraiment un truc... je le souhaite à personne.
À côté de la porte de la prison, il y a une petite pièce ouverte. C'est le local d'accueil des familles. À l'intérieur, une petite femme s'active derrière son bureau. Les familles la pressent de questions. Elle répond, elle donne un coup de main pour les démarches. Elle s'appelle Araxi et elle travaille pour le centre d'accueil des Baumettes. Une association qui aide les proches des détenus depuis 15 ans. Qui aide, ou plutôt qui aidait. La faute, aux subventions, supprimées. L'été dernier, le centre a dû fermer ses locaux chaleureux et se réfugier dans la pièce froide qui jouxte la porte de la prison. 2 jours après l'enregistrement de ce reportage, l'association a dû cesser définitivement toutes ses activités, faute de moyens.
Donc là, aujourd'hui, bon, il reste 2 jours d'existence au centre d'accueil des Baumettes. Vous êtes la dernière salariée survivante, on va dire. À la belle époque, entre guillemets, il y avait combien de personnes, de salariés, de bénévoles qui bossaient avec vous ?
Donc nous étions 2 salariés et une équipe qui oscillait entre 15 et 20 bénévoles. Et c'est vrai que ça allait très fort.
Pourquoi les familles viennent vous voir ?
Alors, venez et viennent, ce n'est pas tout à fait la même chose, puisqu'aujourd'hui, nous n'avons plus du tout les mêmes possibilités que nous avions dans nos locaux. Donc, elles venaient chercher des facilités pratiques déjà, des sanitaires, une table allongée pour les bébés, un petit coin pour les enfants, lecture, jeu.
D'accord, pendant le temps d'attente avant d'avoir le parloir.
Oui, et donc cela pour les enfants, il y avait également un coin lecture pour les mamans, un petit salon où on pouvait déjeuner ou même se reposer tout simplement, où on pouvait écrire, discuter, faire un certain nombre de choses. Il y avait un coin bureau, c'est-à-dire où l'on recevait une personne particulièrement, où l'on pouvait donc entendre les démarches, etc. Et il y avait le téléphone qui sonnait constamment et des consultations par mail et des questions posées par mail à des personnes qui n'habitent pas la ville ni la région, souvent très loin ou à l'étranger, et qui souhaitaient avoir des nouvelles de leurs proches ou faire des démarches en leur faveur.
Donc vous aidiez ces gens à faire des démarches ?
Nous avions trois axes principaux. L'un, c'était l'accueil justement convivial, l'accueil chaleureux, l'écoute. Le second, c'était toutes les informations que l'on pouvait diffuser sur à la fois le contexte carcéral, les premières démarches, etc., comment faire ceci, comment faire cela, et tout le contexte aussi un peu judiciaire, avec des petites données de droit, on va dire, basiques. Faire appel, comment ça se passe, le délai d'appel, l'importance de, les aménagements de peine, la liaison avec le SPIP, etc. Et enfin, le troisième volet, c'était les démarches. Donc les démarches, c'est une situation concrète qui se pose. Là, j'en ai, par exemple, de ce matin.
Par exemple, alors, mais, ce matin
ce matin, il y a eu 2 personnes qui sont arrivées en retard au double parloir de 8h45. Donc j'ai fait une fiche pour chacune d'entre elles. Et j'ai appelé la personne responsable au service des parloirs, qui m'a dit qu'il était évidemment, je m'en doutais, 25 minutes trop tard et que les détenus étaient déjà remontés ou partis en promenade. Donc on ne pouvait pas les rattraper. En revanche, tout à l'heure, donc, une de ces 2 personnes donc, n'a pas de carte de réservation, donc ne peut pas réserver à l'extérieur de la prison. Elle est obligée d'aller à la prison pour pouvoir avoir un parloir. Donc je lui ai proposé que nous essayions de téléphoner à la ligne téléphonique de réservation. Et donc nous l'avons fait pendant environ 50 minutes. Et à la 51e minute, miracle, nous avons eu la ligne et donc cette personne a pu prendre rendez-vous. Donc en la fois, c'est très décevant pour elle aujourd'hui, mais à la fois, elle repart avec un rendez-vous. Mais un rendez-vous dans 15 jours, pas avant.
Moi, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui venaient, ne serait-ce que pour vous poser des questions, pour comprendre comment ça marche.
Oui, là, j'avoue qu'il y a un énorme travail de compréhension des mécanismes judiciaires, de base, encore une fois, de base, et pénitentiaires. Personne ne comprend le pourquoi des règles, quoi. Et donc, ne les comprenant pas, le clivage est très, très, très important entre les familles et on va dire, les surveillants, c'est-à-dire les travailleurs de la prison, quoi. Ce clivage existe de part et d'autre. Je n'ai pas de jugement à avoir là-dessus, mais chacun l'entretient. Les familles l'entretiennent à coup de tout un tas d'imprécations et d'histoires qu'elles se racontent. Et je crois que les surveillants l'entretiennent aussi, de par leurs mauvaises expériences au contact de certains détenus. Et puis peut-être parce que c'est un milieu violent de toute façon, et que donc dans un milieu violent, on se protège, et quelquefois on se protège. On se protège de la façon dont on se protège.
Et donc à l'époque où vous aviez vos propres locaux, oui, à Beauvallon, combien de personnes transitaient par ce local ?
30 000 personnes par an. Et donc, globalement, c'est un tiers de l'ensemble des personnes qui accèdent à la prison chaque année en tant que visiteurs.
En 15 ans de travail au Baumettes, Araxi a rencontré des milliers de destins. Je lui ai demandé s'il y en avait quelques-uns qui l'avaient particulièrement marqué. Elle m'a raconté 3 histoires, 2 tristes et 1 joyeuse. C'est celle-ci que je vous propose d'écouter.
Une personne nous a amené un jour une jeune fille qui pleurait et qu'elle avait trouvée à Beauvallon, là, entre les petits commerces, là, qui était assise par terre et qui pleurait toutes les larmes de son corps. Et quand elle lui avait dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux vous aider ?» La jeune fille ne parlait pas un mot de français. Donc elle nous l'a amenée. Nous non plus, nous ne comprenions absolument pas ce qu'elle disait, parce qu'elle ne parlait 3 mots d'anglais et le reste, c'était visiblement une langue inconnue de nous. Nous avons appris little by little qu'elle était en fait lituanienne, et qu'elle avait passé 3 semaines en prison pour le vol de nourriture. Nous avons accueilli cette jeune fille, nous avons cherché comment faire, parce qu'elle venait passer 3 semaines en prison, mais elle n'avait pas un sou, pas du tout un sou pour rentrer chez elle. Donc nous avons contacté le consulat de Lituanie à Paris et discuté longuement avec le consul. Et nous avons financé son voyage à Paris. Je l'ai moi-même accompagnée après l'avoir logée chez moi pendant 2 jours. Je l'ai accompagnée à Paris. Et le consulat de Lituanie, où nous sommes allés avec cette jeune fille, nous a donc donné le billet de bus qui part. Vous savez qu'il y a des lignes internationales qui partent de Paris tous les soirs. Donc cette jeune fille, dûment nourrie, habillée, et embrasser et partir rejoindre sa petite maman à Vilnius en Lituanie après 2 jours de voyage. Ouais, ça reste une belle histoire parce que je me demande encore ce qu'elle serait devenue si elle était restée là toute jolie, toute en pleurs, assise par terre sans parler un mot de français et sans un sou en poche, quoi.
Nous sommes de retour dans le studio de Radio Grenouille et ça vient pas de nulle part. Sachez, pour compléter ce reportage, que depuis la fin d'octobre dernier et la fermeture du centre d'accueil des Baumettes, il ne reste plus qu'une seule association, très certainement débordée, pour offrir un service d'accueil aux familles des détenus. Et sachez encore que si le centre a fermé, c'est parce que l'administration pénitentiaire a retardé le versement de sa subvention annuelle. Mais c'est aussi et surtout parce que la mairie de Marseille a coupé totalement la sienne cette année-là, cette même année qui a suivi les élections municipales. Comme quoi, la politique, ça a parfois une vraie incidence sur le réel.
Ça vient pas de nulle part.
Vous écoutez Radio Grenouille dans un instant avec mon invité Bruno des Baumettes, ancien détenu. Nous allons tenter de raconter une histoire de cette prison des Baumettes. Mais tout de suite, une chanson corse, Antoine Ciosi, Le Prisonnier.
Je t'envie, petit moineau, toi qui viens quelquefois pour me rendre visite, perché sur l'un des barreaux de cette minuscule lucarne à l'air si triste. Lorsque toi tu ne viens pas, j'y vois un coin de ciel qu'on m'accorde en faveur, mais je t'attends chaque fois. À croire que maintenant, tu sais lorsque c'est l'heure. Soy prigionado, e mamma sin amore. Perdona mio mamma, di vatti tanto male. Je ne peux pas faire un geste pour aller l'embrasser une dernière fois. Que m'importe à moi le reste, car si elle se meurt, c'est à cause de moi. Elle qui ne s'endormait jamais sans avoir imploré la Madone et les saints. Elle qui avait tant donné pour qu'on dise plus tard, c'est un monsieur très bien. Soy prigionado, e mamma sin amore. Perdona mio mamma, ti vatti tanto male. Son prigionado, e mamma sin amore. Perdonami, oh mamma, perdonami.
Antoine Ciosi, Le Prisonnier. Bruno, bonjour.
Bonjour.
Bruno des Baumettes, c'est votre surnom, c'est le nom de votre blog. Un blog où vous racontez notamment l'histoire de cette prison. Peut-être pour commencer, Bruno, pourquoi les Baumettes s'appellent-elles les Baumettes ?
Les baumettes, c'est un terme provençal. Les baumes, c'est les grottes. Et donc, les baumettes, c'est les petites grottes. Quand vous allez vous balader dans ce merveilleux paysage, vous trouvez un relief fait avec du calcaire et donc des petites grottes. Donc, c'est une appellation qui date, je pense, de l'époque où, bien entendu, il n'y avait pas encore la prison, où c'était encore la pleine campagne, ou plutôt cet espace entre les calanques et la ville, où les gens allaient de temps en temps se balader ou rejoindre les calanques au bout du compte.
Alors justement, cette prison, elle n'a pas toujours été là à Marseille. Pendant longtemps, la prison, c'était le Château d'If, puis le Fort Saint-Nicolas. Ensuite, il y a eu trois prisons en centre-ville, les Présentines, la prison Chave et la prison Saint-Pierre. À quel moment on construit les Baumettes ?
Les Baumettes ont commencé à être bâties début des années 30. Ça a pris bien quelques années. C'est un moment important, puisque c'est le moment où il fallait construire des nouvelles prisons avec de grandes capacités, puisque c'était la fin du bagne et il fallait faire revenir en France tous ces bagnes, ou ne plus envoyer de toute façon d'abord au bagne en Guyane, en particulier à Cayenne, les détenus. Donc il fallait les enfermer en prison et ensuite il fallait penser à faire revenir tous ces bagnards qui étaient en exil. Donc il fallait construire de grandes prisons, et parmi ces grandes prisons, les Baumettes.
Donc on commence la construction des Baumettes au tout début des années 30. La construction est un peu chaotique, hein. Il y a des grèves, l'entreprise chargée de construire la prison fait faillite à cause d'un retard de paiement de l'État. Pourtant au final, c'est une prison assez moderne qui sort de terre.
C'est une prison assez moderne dans le sens où, à l'époque, elle est bâtie sur le plan de la prison de Fresnes. D'ailleurs, quand vous voyez une photo ou une image de la prison de Fresnes, vous pensez aux Baumettes et réciproquement. C'était considéré à l'époque comme le nec plus ultra, si j'ose dire, de l'enfermement carcéral, et les Baumettes ont été construits sur ce plan-là. Je ne porterai pas de jugement sur la façon dont à l'époque on considérait le bien-être des détenus, mais voilà, c'était de dire c'était une prison moderne pour l'époque.
Ouais, il y avait l'eau courante, des toilettes individuelles a priori. Et il y avait aussi une petite fantaisie architecturale, des sculptures, sept sculptures, les sept péchés capitaux.
Les sept péchés capitaux, donc, qui ont été réalisés par un sculpteur qui s'appelle Antonio Sarterio, c'est ça, et qui sont classés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Baumettes ne sont pas classés du tout dans les monuments nationaux. Donc demain, on pourra détruire toutes les Baumettes, et pourquoi pas d'ailleurs, et s'il faut aller les donner un coup de main, pourquoi pas, j'y serai aussi. Mais on ne pourra pas détruire l'enceinte, puisque l'enceinte, elle, est classée avec ces sept péchés capitaux de cette statue représentant la paresse, l'envie, la colère, c'est-à-dire tout ce qui se vit et se développe à l'intérieur de cette prison.
Et les premiers habitants de cette prison, à la fin des années 30, ça ne va même pas être vraiment des prisonniers. C'est une histoire assez étonnante et méconnue. Ça va être 20 000 travailleurs indochinois.
Et oui, les pauvres. Ils étaient là, arrivés au moment où la guerre était prononcée, où il fallait amener de la main-d'œuvre au niveau national pour soutenir l'effort de guerre à venir, en particulier aussi remplacer tous les hommes qui étaient appelés à rejoindre l'armée. Et donc on a fait venir d'Indochine 20 000 travailleurs forcés, puisqu'au bout du compte, ils n'avaient pas beaucoup le choix, et que ces 20 000 travailleurs, parmi ces 20 000 travailleurs, beaucoup se sont retrouvés donc ici, dans le sud de la France, et ensuite ont été dispersés. Alors en particulier, ils ont été mis un temps aux Baumettes, et puis ils se sont retrouvés pour certains dans les rizières de Camargue, à planter du riz, donc au moins ils se retrouvaient dans un paysage qu'ils connaissaient.
Oui, ce sont eux qui ont d'ailleurs lancé la culture du riz en Camargue. La guerre, justement, la guerre qui arrive, et les Baumettes qui, donc, sous l'occupation, prennent un autre rôle, notamment celui d'incarcérer des résistants ou encore des juifs raflés et destinés à être envoyés dans les camps de concentration. Donis Toros Marter était une Marseillaise juive. Elle avait 16 ans en 1944. Elle a été arrêtée chez elle avec ses parents. Je vous propose d'écouter son témoignage. Elle raconte les heures qui ont suivi son arrestation en 1944.
Donc, on nous a mis dans une traction avant. Pendant ce temps, ils allaient arrêter ma grand-mère en son magasin de chaussures. Quant à nous, nous nous sommes retrouvés au 425 de la rue Paris, qui était le siège de la Gestapo. Je crois que c'était là que sévissait le nommé Müller. Et dans une petite chambre où il y avait donc mon père, ma mère, ma grand-mère, mon frère aîné, ma tante, que son mari est venu réclamer parce qu'elle était mariée avec un catholique, et ils l'ont libérée en la faisant, en lui assignant de venir signer tous les lundis au siège de la Gestapo.
Et vous restez combien de jours à la Gestapo à peu près? Je ne sais pas si vous savez.
À la Gestapo, on est resté 3 jours. Ensuite, on a été transféré à la prison des Baumettes, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Et donc, Baumettes, on est resté une dizaine de jours. On couchait par terre sur des paillasses. On n'est pratiquement jamais sorti, sauf le dernier jour peut-être. On nous a fait nous aérer dans la cour. On savait pas, on n'avait pas de nouvelles de mon père et de mon frère. On n'avait pas de nouvelles de l'extérieur, si ce n'est par le fait qu'on nous apporte une valise avec un petit mot dedans.
Dans votre cellule, il y avait d'autres personnes que votre mère et votre grand-mère?
Oui, on était une dizaine dans la cellule.
Que des femmes juives?
Pas que des femmes, il y avait aussi des enfants. J'ai retrouvé, il y avait un garçon qui, j'avais 16 ans, donc il en avait 15, qui s'appelait Raphaël Attali, qui était avec sa tante, qui avait été arrêté avec sa tante, et qui est revenu d'Auschwitz. Et puis il y avait une famille Cohen, c'était la maman, qui avait 3 filles. Et elle a été aussi déportée à Auschwitz. Elle a eu de la chance. Son mari n'est pas revenu. Sa fille, la plus jeune, Jenny, a été certainement gazée et brûlée. Et elle est restée avec ses 2 filles.
La guerre qui se termine, la Seconde Guerre mondiale. Mais quelques années après, une autre guerre commence, Bruno, une guerre coloniale. Et les Baumettes vont y participer d'une certaine manière à cette guerre d'Algérie.
La guerre d'Algérie, oui, c'est qui poursuit cette image qui m'a moi beaucoup étonné, c'est Baumettes, une prison politique, puisque la guerre d'Algérie, les Baumettes vont être un lieu important, très important en France, d'incarcération des détenus politiques FLN, algérien, mais aussi de détenus politiques français qui avaient pris fait et cause pour l'indépendance de l'Algérie. Donc, les Baumettes ont vraiment servi à cette époque. Il y avait d'ailleurs un quartier dit algérien aux Baumettes dans lequel on mettait donc les détenus du FLN. Voilà. C'est vrai que cette image des Baumettes prison politique, c'est quelque chose que l'on connaît pas. C'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup surpris. Le reportage qu'on vient d'entendre juste avant m'a beaucoup touché. Et c'est vrai, juste une petite anecdote, c'est que j'étais dans une cellule d'attente aux Baumettes et un Corse m'a demandé, dit avec son accent corse, hein, dites-moi, c'est vrai que les Baumettes ont été construits pour mettre les Juifs dedans? Et je lui ai répondu que je ne pensais que non. Et au bout du compte, toute l'histoire aujourd'hui ressurgit avec les Juifs, puis les Algériens du FLN et puis d'autres détenus politiques dans cette prison.
La guerre d'Algérie qui se termine en 1962, les Baumettes se vident en partie à ce moment-là. Mais les Baumettes n'en ont pas fini avec leurs heures sombres. Et dans les années 70, elles vont se distinguer encore une fois. Ce sera la dernière prison, Bruno, où l'État exécute.
Les Baumettes, c'est aussi un endroit sanglant, un endroit sur lequel on peut dire il y a des traces de sang sur les murs, et en particulier, bien entendu, la guillotine. C'est à Marseille qu'on a guillotiné pour la dernière fois, pour les dernières fois. C'est un moment aussi tragique. Bien entendu, on peut discuter 100 fois de pour ou contre la peine de mort. Je vous laisse imaginer un homme sortir au petit matin d'une cellule et d'être conduit à ce qu'on appelle la veuve, la guillotine, et ainsi de disparaître.
Ça vient pas de nulle part.
Journal de TF1, le 28 juillet 1976.
Bonjour. « 4h13 ce matin, à la prison des Baumettes, un homme a été exécuté, la guillotine est tombée. Il avait 21 ans, son nom Christian Ranucci. Il avait assassiné une fillette de 8 ans, condamnée le 10 mars dernier par la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Il avait été passible de la peine capitale et les jurés en avaient décidé ainsi. À 4h25, sur la prison des Baumettes, un papier sur la porte, c'est l'avis d'exécution. Ranucci n'est plus, il paye sa dette à la société. Voilà qui va sans doute relancer le débat sur la peine de mort, mais nous y reviendrons dans un instant.
Christian Ranucci, c'est l'affaire du pullover rouge, la célèbre affaire du pullover rouge. Christian Ranucci, qui est souvent considéré à tort comme étant le dernier condamné à mort en France exécuté, mais ça n'était pas lui en vérité. En vérité, il y en a eu deux après, dont un au Baumettes, et le dernier homme exécuté en France, ça a bien été au Baumettes. C'était un Tunisien qui s'appelait Hamida Djendoubi. Il a été exécuté le 9 septembre 1977, et une dame était présente, une dame était témoin, c'était Monique Sabelli. Elle était juge d'instruction à Marseille et elle avait été commise d'office pour assister à cette exécution. Elle a consigné ses impressions et ses souvenirs dans une lettre qu'elle a transmise à son fils a fini par transmettre à Robert Badinter, qu'il a transmis au journal Le Monde l'année dernière. Je vous propose d'écouter une lecture de cette lettre dans la voix de Marianne Croziac.
Le 9 septembre 1977. Exécution capitale de Djendoubi, sujet tunisien. À 15h, monsieur le président me fait savoir que je suis désigné pour y assister. Réaction de révolte, mais je ne peux pas m'y soustraire. Je suis habité par cette pensée toute l'après-midi. Mon rôle consisterait éventuellement à recevoir les déclarations du condamné. Une voiture de police vient me chercher à 4h15. Pendant le trajet, nous ne prononçons pas un mot. Arrivé au Baumettes, tout le monde est là. L'avocat général arrive le dernier. Le cortège se forme, une vingtaine ou une trentaine de gardiens, les personnalités. Tout le long du parcours, des couvertures brunes sont étalées sur le sol pour étouffer le bruit des pas. On ouvre la porte de la cellule. J'entends dire que le condamné sommeillait, mais ne dormait pas. On le prépare. C'est assez long car il a une jambe artificielle et il faut la lui placer. Nous attendons, personne ne parle. Ce silence et la docilité apparente du condamné soulagent, je crois, les assistants. On n'aurait pas aimé entendre des cris ou des protestations. Le cortège se reforme et nous refaisons le chemin en sens inverse. Le cortège s'arrête auprès d'une table. On assied le condamné sur une chaise. Il a les mains entravées derrière le dos par des menottes. Un gardien lui donne une cigarette à bout filtrant. Il commence à fumer sans dire un mot. Il est jeune. Les cheveux très noirs, bien coiffés. Le visage est assez beau, des traits réguliers, mais le teint livide et des cernes sous les yeux. Il n'a rien d'un débile ni d'une brute. C'est plutôt un beau garçon. Il fume et se plaint tout de suite que ses menottes sont trop serrées. Un gardien s'approche et tente de les desserrer, il se plaint encore. On lui enlève les menottes et le bourreau a ce mot horrible et tragique. « Vous voyez, vous êtes libre. » Ça donne un frisson. Il fume sa cigarette qui est presque terminée et on lui en donne une autre. Il a les mains libres et fume lentement. C'est à ce moment que je vois qu'il commence vraiment à réaliser que c'est fini, qu'il ne peut plus échapper, que c'est là que sa vie, que les instants qui lui restent à vivre dureront tant que durera cette cigarette. La deuxième cigarette est terminée. Il s'est déjà passé près d'un quart d'heure. Un gardien, jeune et amical, s'approche avec une bouteille de rhum et un verre. Il demande au condamné s'il veut boire et lui verse un demi-verre. Le condamné commence à boire lentement. Maintenant, il a compris que sa vie s'arrêterait quand il aurait fini de boire. Il parle encore un peu avec ses avocats. C'est à ce moment que les sentiments commencent à s'entremêler. Cet homme va mourir. Il est lucide, il sait qu'il ne peut rien faire d'autre que de retarder la fin de quelques minutes. Et ça devient presque comme un caprice d'enfant qui use de tous les moyens pour retarder l'heure d'aller au lit. Un enfant qui sait qu'on aura quelques complaisances pour lui et qui en use. Le condamné continue à boire son verre, lentement, par petites gorgées. Il appelle l'imam qui s'approche et lui parle en arabe. Il répond quelques mots en arabe. Le verre est presque terminé et, dernière tentative, il demande une autre cigarette, une gauloise ou une gitane, car il n'aime pas celle qu'on lui a donnée. Cette demande est faite calmement, presque avec dignité. Mais le bourreau qui commence à s'impatienter s'interpose. On a déjà été très bienveillant avec lui, très humain. Maintenant, il faut en finir. À son tour, l'avocat général intervient pour refuser cette cigarette, malgré la demande réitérée du condamné, qui ajoute très opportunément « ça sera la dernière ». Une certaine gêne commence à s'emparer des assistants. Il s'est écoulé environ 20 minutes depuis que le condamné est assis sur sa chaise. 20 minutes si longues et si courtes, tous entrechoquent. La dernière cigarette est refusée. Et pour en finir, on le presse de terminer son verre. Il boit la dernière gorgée, tend le verre au gardien. Aussitôt, l'un des aides du bourreau sort prestement une paire de ciseaux de la poche de sa veste et commence à découper le col de la chemise bleue du condamné. On lui a lié les mains derrière le dos avec une cordelette. On met le condamné debout. Les gardiens ouvrent une porte dans le couloir. La guillotine apparaît face à la porte. Presque sans hésiter, je suis les gardiens qui poussent le condamné et j'entre dans la pièce, ou peut-être une cour intérieure, où se trouve la machine. À côté, ouvert, un panier en osier brun. Tout va très vite. Le corps est presque jeté à plat ventre, mais à ce moment-là, je me tourne, non par crainte de flancher, mais par une sorte de pudeur instinctive, viscérale. J'entends un bruit sourd. Je me retourne. Du sang, beaucoup de sang, du sang très rouge. Le corps a basculé dans le panier. En une seconde, une vie a été tranchée. L'homme qui parlait, moins d'une minute plus tôt, n'est plus qu'un pyjama bleu dans un panier. Un gardien prend un tuyau d'arrosage. Il faut vite effacer les traces du crime. J'ai une sorte de nausée que je contrôle. J'ai en moi une révolte froide.
La mort au choix, les berruriers noirs.
Ça vient pas de nulle part.
La peine de mort qui va finalement être abolie en 1981. Mais notre histoire de la prison des Baumettes continue. Et elle continue notamment parce que dans les années 80, il n'y a plus de peine de mort, mais les conditions de détention sont toujours mauvaise et la tension monte, Bruno, dans les années 80.
Oh, les conditions de détention deviennent de plus en plus mauvaises, puisque au bout du compte, on pourrait dire, comme les HLM, que les Baumettes ont mal vieilli. Et donc, petit à petit, dans les années 80, il y a un véritable laisser-faire au niveau architectural, au niveau de l'entretien, au niveau aussi de tout ce qui doit accompagner la vie des prisonniers et qui fait qu'au bout du compte, ça va exploser. Ça va exploser plusieurs fois, mais avec la grande mutinerie de 1987.
Qu'est-ce qui se passe alors ce jour-là? C'est en juillet 87, je crois.
Donc en fait, ça a commencé en juillet et puis c'est reparti en août. Donc il y a eu la mise... ils ont brûlé. Il y a eu une révolte des détenus dans l'atelier menuiserie. Il y avait un grand atelier qui produisait donc des objets en bois, je crois que c'est ça, voilà. Et, mon Dieu, on a mis le feu à la prison, comme on dit. Et avec le fait qu'ils ont saisi les clés, qu'ils sont montés sur les toits, voilà. Donc, il y a eu cette première partie de la mutinerie en juillet, et puis il y a eu de nouveau une autre mutinerie en août, aussi avec un peu les mêmes choses, la prison aux mains des détenus, et puis, bien entendu, les services d'ordre qui sont intervenus, les CRS, hein, puisque c'était, à cette époque, n'existait pas ce qu'on appelle aujourd'hui les IRIS, c'est-à-dire des compagnies spécialisées de la pénitentiaire qui sont chargées aujourd'hui de mater les mutineries. À l'époque, ce sont les CRS qu'on a envoyés à l'intérieur de la prison.
La mutinerie qui est donc matée, les détenus qui finalement retournent dans leurs cellules, la prison qui se dégrade encore de jour en jour et d'année en année. Et puis en 2012, la prison des Baumettes qui revient sur le devant de l'actualité quand le contrôleur général des lieux de privation de liberté, le contrôleur général des prisons, fait un rapport sur la prison des Baumettes, un rapport accablant. Quelques semaines après, l'administration pénitentiaire donne quelques coups de pinceau à la prison des Baumettes et le journal télévisé de France 2 du 28 décembre 2012 en fait part.
Le journal de 20h, Marie Drucker.
Premier coup de pinceau à la prison des Baumettes à Marseille et premières images des travaux depuis la publication du rapport accablant et des photos sur l'état sanitaire des lieux. La mise en route du chantier s'est accélérée. Il faut dire que le Conseil d'État n'avait pas laissé le choix. Marie Forestier.
Un drap en guise de porte des toilettes. Trois personnes vivent dans cette cellule de 9 mètres carrés. Ce sont les premières images de la prison des Baumettes depuis que le contrôleur des prisons a dénoncé sa vétusté. Il y a quelques semaines, dans un rapport accablant, il avait dévoilé ses photos. Des murs délabrés, des couloirs transformés en déchetterie et des cadavres de rats dans les coursives. Des travaux ont commencé la semaine dernière dans 10 cellules du bâtiment le plus vétuste. Repeindre, rétablir l'électricité et l'eau potable, un chantier d'envergure que l'administration a exceptionnellement ouvert aux caméras pour montrer que la rénovation est lancée. Jugée inhabitable, 40 cellules ont déjà été fermées. 12 détenus vont participer aux travaux qui doivent durer jusqu'en 2017.
La prison des Baumettes, les travaux, l'état général. Vous y étiez à la prison des Baumettes en 2012. Quand on s'est rencontrés pour préparer cette émission, vous m'avez dit que, d'après vous, l'état de la prison était encore pire que celui que le contrôleur général des prisons avait pu noter dans son rapport.
Oui, j'ai eu l'énorme privilège d'être justement logé dans ce bâtiment le plus ancien. Et dans ce bâtiment, dans le quartier des isolés qui se trouve dans le bâtiment A, dans les cellules les plus vétustes qui soient. Et avec, bien entendu, les rats, les cafards, et aussi quelque chose qui est très difficile à témoigner au travers d'une radio ou d'une télévision, ce sont les odeurs, l'odeur de la mort, l'odeur de la merde, l'odeur des cadavres des rats, mais aussi l'odeur de la nourriture qui qui est en train de pourrir, et des êtres humains, les détenus, qui pourrissent avec. Voilà. Cette description, je pense, d'un monde de pourriture est terrible, avec des endroits dans les baumettes comme les douches, ou certaines cursives dans lesquelles, véritablement, cela renvoyait à un film très connu des années 70, je crois, c'était Midnight Express, dans une prison de Turquie, mais là, c'est en France et au XXIe siècle.
Une prison qui, en plus de tout cela, est complètement surpeuplée. On parle de près de 2000 détenus, alors qu'il y a 1150 places. Et pour résoudre ce problème, l'administration pénitentiaire a lancé des travaux et va construire une nouvelle prison, Bruno.
Eh oui, et ben après les Baumettes 1, les Baumettes 2, le retour. Il y a eu donc Madame Taubira qui a posé la première pierre de cette nouvelle prison. Une prison qui sera elle aussi, je suppose, modèle, comme les Baumettes l'ont été dans les années 30. Bien entendu, quelqu'un comme moi qui suis passé par les prisons ne peut avoir qu'un regard très, très circonspect et très critique par rapport à cette logique de « nous construisons encore et encore de la prison ».
Entendez-vous la voix des prisons ? Des mutinés de Toul, de Nancy, de Clairvaux, Los, Amiens ou de Nîmes, cette voix qui crie insurrection, ce sont nos frères, nos enfants, nos maris, nos frangines, nos camarades, nos amis, à qui ne reste que la violence pour abattre le mur du silence. Mais dehors ou derrière les grilles, la misère a le même goût. Révoltés des prisons Bastille, tous ceux qui luttent sont avec vous. Tous ceux qui luttent sont avec vous. Paysans, ouvriers ou précaires, immigrés, militants, clandestins, les brimades, les fouilles à corps, l'arbitraire, il y en aura pour tous et pour chacun. Car te prendre ta liberté leur suffit pas. La prison, c'est une zone de non-droit. Si tu l'ouvres un jour où t'en as marre, c'est l'isolement, le cachot, le mitard. Mais dehors ou derrière les grilles, la misère a le même goût. Révoltés des prisons Bastille, tous ceux qui luttent sont avec vous. Tous ceux qui luttent sont avec vous. Dans toutes les prisons on tabasse, trois matons qui s'emmerdent, tu y passes. On a froid, on bouffe mal, on devient cinglé, entassé dans quelques mètres carrés. Tuer le temps dans ce ghetto jour après jour, compter les heures chaque nuit sans amour. Dans les couloirs de la mort lente, plus de repères, faut s'accrocher pour pas se foutre en l'air. Mais dehors ou derrière les grilles, la misère a le même goût. Révoltés.
Dominique Grange, la voix des prisons. Bruno Desbaumettes, merci d'être passé nous voir.
C'est moi qui vous remercie.
Écoutez, on vous souhaite un bon retour chez vous et on rappelle le nom de votre blog, l'adresse de votre blog, où on trouve plein d'informations. Un blog qui a d'ailleurs dépassé les 150 000 visiteurs récemment.
Eh oui.
C'est brunodesbaumettes.overblog.com. Tout de suite, le témoin de Ça vient pas de nulle part.
Ça vient pas de nulle part.
Pour conclure cette émission, nous avons souhaité donner la parole à un témoin direct, à un détenu qui se trouve actuellement au Beaumet. Et c'est un jeune homme de 27 ans, Kamel Bou Abdallah, que nous avons sollicité. Kamel a été condamné en juin dernier à 25 ans de prison. Il n'a jamais tué personne, il a découvert la prison jeune. Il avait déjà fait 6 petits séjours avant de commettre le braquage de trop, celui de la course-poursuite avec les gendarmes, le scooter qui tombe. Kamel qui, dans la panique, menace un gendarme avec une arme enrayée. Le sang n'a pas coulé, mais Kamel a pris 25 ans, à l'âge de 27 ans. Depuis quelques mois, un comité de soutien s'est monté ici à Marseille pour faire parler de son histoire et lui offrir un bon avocat pour son procès en appel, où il espère faire réduire sa peine. Le collectif s'appelle Kamel Libre. Quant à Kamel, il nous a fait parvenir une lettre. En voici quelques extraits. Ils sont lus par Alexis Huguet.
Au milieu de la prison, cet endroit froid, je recherche la beauté, car elle est dans toute chose, parfois cachée. Ici, je me suis rendu compte de plusieurs faits. Cela m'a ouvert d'autres horizons. J'ai découvert qu'il n'est pas question de justice dans le vrai sens du terme. Il est question d'une justice. J'ai découvert qu'il n'est pas question de sanctions. Il s'agit de terreur. Car chaque jour est un jour de moins à vivre. Une mort sociale. Une élimination momentanée. J'ai découvert des méthodes d'une cruauté et d'une froideur glaçante. J'ai compris que toute forme de rébellion, de contestation, même juste ou non violente, est sévèrement combattue par l'administration, qui vous fera abdiquer, renoncer à coup sûr. Le cachot est à la prison ce qu'est la prison à la société, l'endroit qui vous brise, vous casse, vous use. Si vous insultez un agent, vous êtes susceptible de passer jusqu'à 12 jours dans une pièce sombre, sans télé et sans contact humain. Hormis les surveillants. Cette sanction est infligée par le directeur de la prison. Pourtant, il n'est pas juge. Ceux que vous appelez voyous, délinquants, qui sont soi-disant durs, sont terrorisés par cet isolement extrême. Ils vont jusqu'à feindre le suicide pour l'éviter. Feindre le suicide en mettant le feu à la cellule, au risque de mourir étouffé par la fumée ou par l'asphyxie. Ils risquent leur vie pour éviter cette torture psychologique. Beaucoup sont morts de la sorte. Beaucoup sont morts parce qu'ils ont insulté un agent, pour une bagarre entre détenus ou un refus d'intégrer leur cellule. Je demande si ce n'est pas disproportionné. Quelqu'un qui rentre en prison pour des barrettes de shit, qui se retrouve au cachot, et tellement qu'il ne supporte pas, il crève. Et puis j'ai été victime de la bêtise de certains agents et chefs de poste. Bien que je sois dans mon droit, j'ai pu constater la toute-puissance d'un agent, car il est couvert par sa hiérarchie, son syndicat. J'ai été molesté, humilié plusieurs fois. J'ai voulu dénoncer. J'ai pensé qu'on sanctionnerait ces brebis galeuses de l'administration pénitentiaire. Au lieu de ça, comble du comble, j'ai été moi-même condamné à plusieurs mois de prison, et je dois de l'argent à tous ceux qui m'ont fait la misère. Ce grâce à qui, aujourd'hui, je porte des cicatrices. Ils ont essayé de m'arracher mon caleçon, de m'étouffer. Je suis en prison car j'ai fait des braquages. Je voulais dénoncer, mes motos dédommager pour tout ce que j'avais vécu de violence, de frustration, d'humiliation, d'injustice lors de mes précédents passages en prison. Car je n'avais été condamné qu'à une peine de privation de liberté, pas à tout le reste. Aujourd'hui, j'ai compris à quel point j'ai été bête de rendre le mal par un autre mal. À ma sortie, j'avais choisi le travail, l'honnêteté. Mais plus le temps passait, plus je me sentais extraterrestre, dans ce monde que je ne connaissais plus, qui m'avait exclu trop longtemps pour que l'on puisse parler de réinsertion. Je dis qu'un détenu, quand il sort, reste encore un détenu dans sa manière de penser, de réagir et de craquer. Il est imprégné pour un temps de la mentalité de l'endroit où il a vécu, la prison, qui est un univers à part. Ses règles, ses codes sont différents du monde extérieur. Il faut du temps, de l'aide et du soutien pour s'en défaire, bien plus que ce que l'on propose aux sortants à l'heure actuelle. Ce n'est pas un hasard si le taux de récidive reste très élevé, ce qui est la preuve de l'inefficacité de l'enfermement. Je constate que l'enfermement n'est absolument pas une solution pour la majorité des prisonniers. Pourquoi marginaliser davantage des individus déjà en marge? De plus, pourquoi concentrer tous les criminels, délinquants, dangereux, moins dangereux, dans un même endroit, de sorte que ceux-ci deviennent forcément amis, ou au moins co-détenus, ou encore pire, ennemis? En fait, dehors, j'ai eu des contacts avec des voyous, j'ai fait le con avec eux. À cause d'eux, et pour me punir, me faire comprendre qu'il ne faut pas côtoyer ces gens et agir comme eux, on m'a renvoyé côtoyer toujours encore plus de voyous, plus durs et plus violents. Que dois-je faire? M'isoler? Si je refuse la violence aujourd'hui, alors je deviens victime de celle d'autrui. Et le comble, c'est que je n'ai nulle part où fuir, à part l'isolement. Au Baumettes, je dois dire que j'ai constaté une misère et une détresse que je n'avais jusque-là pas vue. Le manque de nicotine. Certains se mutilent, d'autres se frappent la tête contre les murs parce qu'ils n'ont pas de clope. Ils se battent pour une roulée. On est en France, en 2014.
Voilà, ça vient pas de nulle part, c'est fini pour cette fois-ci. On se retrouve dans quelques semaines, le prochain deuxième mercredi du mois à 17h sur le 88.8, la radio de la Grenouille à Marseille. Et sur le site internet de cet estimable média, à la page de Ça vient pas de nulle part, vous retrouverez le podcast de cette émission ainsi que les liens et autres références des éléments que nous avons cités à l'antenne. À la technique aujourd'hui, c'était l'excellent Sébastien. Cette émission a été préparée et présentée par Claire Rivière. Merci à mon invité, Bruno. Merci à tous ceux aussi qui ont apporté leur aide ou leur soutien à la naissance de cette émission, notamment Alexis, Marie, Florence, Chloé, Marianne, toute l'équipe de La Grenouille, Rémi, Rosa du collectif Camel Libre, la bande de l'émission ND Chaîne sur Radio Galère, Araxi du centre d'accueil des Baumettes. Et j'envoie aussi mes remerciements à Kamel Bouabdallah et une bonne dose de courage à tous ceux qui passent leur journée et leur nuit en prison. Thank you.